Un film est passé et deux hommes sont arrivés. Bonjour Patrick.
Deux hommes dans la ville.
Oui.
Salut Julien.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Un film est passé, ou qui sera consacré aujourd'hui à un film, encore une fois, qu'on aime beaucoup. Évidemment, on ne va pas venir vous parler de films qu'on déteste. Un film qui n'avait pas marché à sa sortie, en tout cas pas en Europe, aux États-Unis, je ne sais pas, mais qui avait été un flop, hein, qui a gagné en notoriété avec le temps, mais qui est encore moins célébré à l'heure actuelle qu'un film que tous les bad boys de l'univers revendiquent, Scarface. Moi, un film que j'aime moyennement, un film avec le même réalisateur, avec le même acteur, c'est-à-dire Brian De Palma et Al Pacino. C'est un film qui s'appelle Carlito's Way, en français, qui s'appelle L'Impasse, qui était sorti fin de l'année 1993, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je l'ai vu au Corso 1, à Fribourg, la seule semaine où il a été diffusé, puisque le film n'avait pas marché. C'est une grosse production, oui, je crois que c'est quand même un gros truc. Hein. Film d'époque en partie, enfin, c'était un film
beau
qui
budget.
Est assez cher, gros budget, qui s'était méchamment ramassé. Un film avec également Sean Penn, dans un rôle secondaire, mais quand même extrêmement important dans le film, et Penelope Ann Miller. Oui, c'est sexiste de dire ça, mais waouh, quoi. Je ne me souvenais pas qu'elle était aussi charnelle, cette demoiselle, quoi. Alors, tu vas nous faire le pitch, je pense
oui,
que c'est
donc
plus
là,
simple.
On est New York, évidemment, ville cinématographique par excellence. Le film a d'ailleurs été tourné essentiellement à New York. C'est en 1975, ça se passe en 1975. Il faut savoir que ce film, dont je vais pitcher l'histoire, est une adaptation de deux romans qui ont été écrits par un juge, qui s'appelle Edwin Torres, le premier roman Carlito's Way et l'autre qui s'appelait After Hours, et le film est l'adaptation du deuxième roman After Hours, mais évidemment ils ont changé le titre parce qu'il y a le film de Scorsese qui était sorti dans les années 80. Donc c'est l'histoire de Carlito Brigante, hein.
Déjà qu'est-ce que c'est que ce nom,
bon voilà, gangster.
Tu prends ta retraite, Carlito.
Moi je regarde jamais en français.
Ah, la VF est bien.
Oui. Donc c'est un gangster légendaire du barrio qui est libéré de prison en raison d'un vice de procédure après avoir purgé 5 ans de sa peine de 30 ans.
D'ailleurs, il en fait des caisses quand il est libéré.
Oui,
hein. À tel point que même le juge dit cassez-vous parce que vous m'énervez, puis de toute façon, on va vous revoir. Vous.
Le juge interprété par Paul Mazursky, d'ailleurs.
Ça, oui, c'est vrai.
En Brigante, elle a vraiment la ferme intention de mener quelque temps une affaire licite pour ensuite, son rêve, c'est quoi ? C'est d'aller aux Bahamas, s'associer avec un ami qui tient un commerce de vente de voitures d'occasion, ce qui fait bien rigoler tout le monde dans le barrio. Et dès sa sortie, Carlito se retrouve en danger dans un deal de drogue qui tourne mal, ce qui lui permet de s'emparer de 30 000 dollars pour acheter des parts dans un nightclub. Donc
oui, mais en même temps, il est presque victime d'avoir récupéré cet argent.
Mais vraiment, il est...
Au mauvais endroit, au mauvais moment. Et cette scène est incroyable, quoi.
On y reviendra, effectivement, dans les fameux set pieces là, de ces films. Donc, il a des parts dans un nightclub et il essaye tant bien que mal, hein, dans tout le film, de rester clean, d'éviter les ennuis. Mais son passé de gangster et puis ses liens, tu l'as dit, avec son meilleur ami, David Kleinfeld, qui est donc un avocat corrompu et cocaïnomane.
Est-ce que c'est son meilleur ami?
Alors, c'est ce qu'il pense au début.
Oui, c'est ce qu'il pense, parce qu'il lui a sauvé la mise. C'est surtout ça, a l'impression de lui être redevable.
De lui être redevable.
Et l'autre en joue à mort. Alors, enfin,
c'est ce lien avec ce personnage qui va menacer de saboter son rêve de retraite au soleil.
Alors, Sean Penn a une tête pas possible.
Ouais, il s'est rasé devant, il s'est laissé pousser les cheveux et friser les cheveux.
On va pas dire qu'il a la dégaine du juif new-yorkais, mais...
Non, en tout cas, c'est
impayable. Terrible, quoi.
Alors, quand même, je pense qu'il faut... Parce que c'est important pour le contenu du film, c'est un long métrage qui commence avec une scène où Carlito Brigante se fait tirer dessus à bout portant. Et c'est un gigantesque flashback d'un homme qui... Ben, je sais pas s'il
c'est
est
les choses de la vie de Claude Sauté, en fait.
Oui,
mais c'est ça.
C'est un peu ça.
Sauf que les choses de la vie, voilà quoi.
Alors ici, ça sera donc un gigantesque flashback. Et donc on sait le sort que va connaître Carlito Brigande.
On peut assez facilement l'imaginer.
Et il y a une voix off. Voilà, on aime ou on n'aime pas les voix off. Mais d'emblée, ce que je tiens à souligner, c'est donc Pacino qui se raconte, hein, qui raconte en fait Carlo Brigante. Et avec une voix off très film noir, mais alors je trouve, pour moi, hein, c'est une des voix off les plus, comment dire ça, immersives, vivantes et qui enrichissent vraiment le récit, parce que c'est pas les voix off style qu'on voit chez Scorsese avec quelqu'un qui raconte, c'est vraiment quelqu'un qui se regarde, en fait, c'est comme s'il n'était déjà plus avec nous, et il se regarde et il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver, erreur, pourquoi je fais ça? Et ça donne vraiment, je trouve, beaucoup d'émotion et beaucoup de poids, je dirais, dramatique à ce récit.
Non, mais ce qui est très étonnant, c'est que ce mec, on le croit. Il a vraiment envie de se ranger et d'aller laver des voitures au Mexique, enfin un truc mais complètement absurde. Et en fait, c'est les gens qui sont autour de lui qui je ne vais pas dire qu'ils l'obligent, mais qui font reprendre ses mauvais instincts. Et c'est... D'ailleurs, il y a John Leguizamo qui joue une espèce d'enfoiré de base.
Benny Bianco.
S'il n'y avait pas les micros, on dirait un autre mot, qui est absolument épouvantable dans ce film et qui est vraiment bien. Moi, je dois toujours rire, je ne devrais pas, parce que c'est un film que j'aime beaucoup, puis je trouve qu'il y a un lyrisme vraiment... qui c'est qui a fait la musique de Sinka?
C'est Patrick Doyle.
Ouais, étonnant, parce que je ne suis pas très fan de Patrick
Doyle. Non, mais là,
il est
très bon. Ouais.
Compositeur plus ou moins titré de Kenneth Branagh, si je ne dis pas de bêtises, anglais. Et il y a un espèce de lyrisme dans ce film, il y a un côté un peu shakespearien comme ça, très artificiel, mais qui fonctionne. Mais il y a une scène, moi, que je trouve ridicule dans ce film qui était dans la bande-annonce. Il y a eu un plan de Pacino qui est sous la pluie avec un couvercle de poubelle sur la tête puis qui sourit bêtement en regardant à travers une fenêtre. On comprend l'émotion, pourquoi il le fait, mais j'ai toujours trouvé que ce plan, j'ai dit, mais non.
Je suis pas d'accord.
Oui, mais ça m'étonne pas. Mais il a cette espèce de sourire un peu niais, puis il a cette poubelle sur la tête. Non. J'ai dit, mais non, Pacino peut pas être sous la pluie avec une poubelle sous la tête.
Non, bah, c'est-à-dire...
Mais ça trouve sens dans le film.
Évidemment. Oui, parce que c'est quand même une scène où il regarde justement sa belle, qu'il avait perdu de vue. Et puis si tu regardes, en fait, à un moment, elle la regarde danser, ce qui est moi je trouve une très belle scène. Mmh. Puis à la fin, elle se met la main sur la tête, puis il a le même geste qu'elle avec sa poubelle. Et puis c'est un peu la belle et la bête, c'est-à-dire que lui, il vient du barrio et il regarde cette femme gracieuse. Et il y a tout ce côté aussi, c'est un homme du caniveau et il n'en sortira jamais. Et il y a ce côté aussi, cette origine de ce personnage qui malgré tous ses efforts, il sera. Comme le dit Michael Corleone dans Le Parrain, c'est on me tire, je peux faire tout ce que je veux, on me tire, le milieu me ramène toujours à la rue. Et ça, c'est vraiment très,
c'est
très
pas
bien
le même
rendu
acteur,
dans ce film. C'est le même acteur,
oui, il me semble,
extrêmement perspicace. Donc, tu l'as dit, c'est un film lyrique, c'est un film noir par excellence. C'est d'ailleurs ce qui a attiré Brian De Palma, parce que quand il a vu le script arriver... avant de commencer à le lire, il s'est dit, mais moi je vais pas faire de nouveau Scarface 10 ans après. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que le script de David Kopp
C'est David Kopp qui a écrit ça. Ouais. C'est marrant, comme voilà, encore un gars comme Robert Towne, super bon scénariste dont on se souvient de son nom pour plein de trucs, et en tant que réalisateur,
scénariste, bon, Jurassic Park quand même, pas trop mal, mais
non,
c'est
mais
vrai.
Oui,
comme réalisateur, je suis d'accord avec toi.
Non, ouais. Comme scénariste, il a quand même son nom affilié à une bonne poignée de films vraiment brillants. Et comme réalisateur,
Stuart of Echoes avec Kevin Bacon, qui est pas mal, mais bref. Et donc, c'est un film. De Palma dit qu'il est inspiré, bien sûr. Alors, personne ne sera surpris, ceux qui connaissent un peu le film noir, Assurance sur la mort.
C'est tellement bien, ça.
Bon, Boulevard du Crépuscule, pour cette ambiance, justement. Moi aussi, j'aime moins, mais c'est effectivement cette ambiance.
Billy Wilder, les deux.
Oui, exactement. Et on est quand même dans un film qui, pour du De Palma, alors il a fait différents types de films, c'est son film le plus classique, mais en même temps le plus dramatique, le plus lyrique. Il est extrêmement tenu. Si on pense aux Incorruptibles, c'est un film aussi très classique, mais qui est beaucoup plus pétaradant, c'est plutôt un divertissement tonique, alors que là, c'est, je trouve, juste un film... où De Palma trouve l'équilibre.
C'est peut-être la dernière fois qu'il fait du De Palma sans que ça devienne de la caricature. Tu penses à Snake Eyes, qui a un côté très agréable, mais à un moment donné, tu as envie de dire, ok, tu te singes toi-même, et tu le fais extrêmement bien, mais presque trop, alors que là, pas.
Et De Palma dit souvent, à qui veut bien l'entendre, qu'il considère que c'est son meilleur film.
C'est vrai?
Oui. Okay. Alors, il faudrait lui demander maintenant, vu les trucs qu'il a fait depuis. Mais je veux dire, non, c'est son meilleur film. Et c'est aussi, je me permets de donner deux, trois petites anecdotes, parce que je trouve ça,
préparant
un peu l'émission, je trouve ça amusant. C'est qu'il avait terminé le tournage et le montage, tout ça. Et puis, il a fait un peu une réunion avec tous ses acteurs, etc. Et puis, il avait dit, voilà ce qui va se passer. Donc, le film ne va pas marcher.
Ah, il avait prévu ça.
Ouais, il va être mal accueilli par les critiques. Je vais me faire malmener parce que de toute façon, personne ne m'a pardonné mon adaptation du Bûcher des Vanités. Pacino.
C'est pas si mal.
Voilà, mais il avait dit ça, et ça n'a pas manqué, d'ailleurs, soit dit en passant. Pacino ne sera pas nominé, il a déjà gagné un Oscar pour Le Temps d'un Week-end, et il sera critiqué parce qu'en fait, on va dire qu'il fait du Pacino. Ouais. Sean Penn, tout le monde va le trouver extraordinaire parce que ça fait un moment qu'il n'a rien fait, parce qu'il était un peu sorti. Donc, il va revenir, il a un rôle très... à Oscar. Hein.
Donc, ça l'a eu
Non, il ne l'a pas eu. Je crois qu'il a été nominé. Et qu'en fait, vraiment, que le film serait mal accueilli. Et tu l'as dit au début, ça a été... quelques critiques américains ont reconnu la classe du film, mais sinon c'est une énumération de vieux clichés, cette voix off c'est pas possible, De Palma fait dans l'excès parce qu'il y a 2-3 scènes d'action qui sont moi je trouve absolument incroyables, notamment les dernières 30 minutes où les gens...
Oui, puis c'est marrant parce que ça dure 30 minutes, quasiment montre en main, et ça passe comme un éclair. Quoi.
Voilà, mais on lui reproche en fait sa virtuosité technique, enfin, c'est toujours un peu la même chose. Hein. Et c'est vrai qu'il a fallu du temps pour que ce film qui est, oui c'est vrai, totalement assumé, classique, comme Clint Eastwood fait des films de genre classique à un moment de sa carrière, eh bien remonte comme ça à la surface au point où les cahiers du cinéma l'ont désigné comme le meilleur film ou un des meilleurs films des années 90.
Puis les critiques de l'époque, ils disaient quoi ? Je sais pas. J'ai pas envie d'aller voir, mais je peux bien.
Non, il se faisait allumer. Et puis voilà. Donc c'est vrai que c'est un film qui a.
Vieux gauchistes.
Un film qui est remonté. Moi, ça ne m'étonne pas dans le sens où, quand je l'ai vu, j'ai toujours trouvé que c'était un. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un grand film. Et pour moi, c'était inconcevable qu'on le remarque pas avec le temps et que finalement c'est un film qui résisterait au temps parce qu'il a cette patine. Il se passe dans les années 70, donc au niveau de la manière de filmer le New York, les costumes, etc.
Alors moi, il y a cette musique latino qui me casse un peu les
pieds.
Je me souvenais pas.
C'est le propre du barrio, de la boîte discothèque. Moi, ça me dérange pas du
tout. Tout le long, en bruit de fond. J'ai entendu quelqu'un, il n'y a pas longtemps, un compositeur de musique de film, je peux plus te dire qui, je me demande si... Non, c'est pas Michel Legrand, mais quelqu'un qui disait que trop de musique de film... Ah non, c'est Bertrand Tavernier qui parlait de ça à propos des musiques de film. Dans une interview, il disait, mais la meilleure musique de film du monde, ce qui n'est pas le cas ici, en parlant des bruits, ce qu'on appelle les musiques de source, c'est-à-dire les chansons que les acteurs, que les personnages entendent en même temps que nous, quand on en met trop, à un moment donné, ça sature, ça nous casse les pieds, quoi. Et même une musique qui est formidable, une BO qui est formidable, si on la met trop, et si elle est trop présente, ça peut flinguer l'impact du film. Là, je trouve que dans ces boîtes de nuit, à un moment donné, on est plutôt dans une ambiance latino machin, mais c'est bon, je crois que oui, normalement on a un soir un peu soupé, voilà.
C'est une discothèque, c'est un peu normal.
Oui, est-ce que parce que moi j'ai eu la chance de voir, je ne l'ai vu que deux fois en fait, mais je l'ai vu, je te jure, quand il est sorti, je l'ai vu il y a quelques semaines, je l'avais jamais vu entre deux, en gardant un souvenir absolument mémorable, mais je l'ai vu dans de très bonnes conditions les deux fois, et je me demande si c'est un film qui tient la route si tu le regardes mollement sur une télé. Pas très grand diamètre un soir à la télé, j'en sais rien.
Je sais pas, je il tient peut-être pas forcément déjà le regard un peu cynique, parce que c'est vrai que cette voix off avec ses commentaires de truand, avec la manière dont il parle de sa bien-aimée, c'est un petit côté
match primaire.
Objectifier, etc. Mais pas dans la manière dont il perçoit cette femme, mais la manière dont c'est filmé. Je sais pas, c'est un film qui mérite en tout cas du bon son, un bel écran, parce qu'il y a quand même ce... Mais même les scènes de discothèque indépendamment de la musique, il y a beaucoup de plans à la Steadicam, hein, c'était un grand opérateur de Steadicam, il s'appelle Larry McConkie, je l'ai sous les yeux hein, parce que je l'aurais pas retenu.
Mais donc la Steadicam, pour les gens qui ne sauraient pas, c'est une caméra à contrepoids qui permet de se déplacer avec la caméra sur l'épaule en ayant un plan fluide et pas l'impression d'une caméra qui bouge. Et ça a été utilisé pour la première fois, non pas dans Shining, je croyais, mais non, ça a été utilisé avant. Je vais pas le retrouver dans un truc insignifiant, un film où on se dit, mais tiens, pourquoi dans ce film-là ? Et ça avait flingué, je crois, les deux tiers du budget rien que pour avoir des Steadicam. Mais qu'est-ce que c'est ? Un film de 76-77 que j'ai dû voir il y a deux semaines, trois semaines, et je m'en souviens déjà plus. Bah bravo.
Donc là, les plans à la Steadicam de celui qui a opéré sur Le Silence des Agneaux, Les Affranchis, le fameux plan du Copacabana. Là. Donc on retrouve ce côté très immersif, très classe. Et justement, dans ces discothèques, il y a cette espèce de fluidité rendue par aussi l'inventivité de Palma, qui aussi a été attiré. Ben, ça, c'est souvent son cas. Il voit le film, il voit le potentiel visuel d'un film, et là, il s'est dit dans le final avec les escalators je vais faire un truc qui se passera dans les escalators du World Trade Center, qui sont des escalators énormes. Et puis en fait, il y a eu l'attentat en 92, qui est 92 ou début 93. Il a dû tout recalibrer et choisir. La scène finale se passe dans le Grand Central Station à New York, la gare de New York. Donc c'est aussi ce côté toujours visuel en disant, bah, comme Snake Eyes, comme Mission Impossible, tiens, j'ai ces deux scènes que j'imagine que je pourrais faire. Ça m'attire aussi. C'est la raison pour laquelle il a aussi accepté de tourner ce film.
Steadicam, le premier film, c'est Halloween de John Carpenter.
Ah, c'est vrai?
Ouais,
okay,
où ils ont flingué. Enfin, non, premier.
Non, je voulais pas celui-là, alors.
Où ils avaient 300 000 francs de budget et ils ont flingué 90 000 dollars de budget pour louer des caméras Steadicam.
Okay.
Pour donner cette impression de film de voyeur, en fait, où on suit des personnages. Michael Myers suit les personnages et c'était tellement cher parce qu'il y avait un brevet ou je sais pas quoi, qu'ils avaient dépensé un tiers du budget du film Halloween pour louer des caméras Steadicam. Voilà, pour l'anecdote. Puisque ça m'est revenu entre deux.
En tout cas, c'est vrai que c'est un film qui revient pas forcément dans les conversations, même des cinéphiles qui aiment le cinéma de genre.
Mais parce que c'est ringard, c'est un film Pacino, de Palma. Est-ce qu'il a la cote en ce moment?
Non, pas forcément. Moi, je sais pas si c'est tellement ringard. Je pense que c'est plutôt qu'il souffre un petit peu de Scarface. Pour les gens, c'est Pacino, De Palma, ces deux noms, c'est Scarface.
Puis moi, j'aime pas
Scarface film. Récupéré par les ténors du hip-hop, par toute cette culture, alors que L'Impasse est un film beaucoup plus dispensable par rapport à, puisqu'il est ancré dans une tradition l'âge d'or de Hollywood, qui est évidemment beaucoup moins intéressante, qui est beaucoup moins outrancier. Scarface est un film outrancier.
Alors c'est que le prénom, de dire que Scarface.
Mais moi, j'ai revu, c'est quand même intéressant parce que le personnage est.
Alors là, la VF, ça va pas.
La VF, ça va pas.
Alors là, ça va pas du tout.
Non, non.
Pas du tout.
Mais Scarface, c'est l'histoire d'une ascension pour un type qui se crame. Et puis là, c'est l'histoire plutôt d'un type qui veut s'en sortir et qui chute, mais pour d'autres raisons.
Parce qu'il n'est pas très bien entouré. Hein. Voilà. Puis franchement, on pourrait lui dire qu'il n'est pas très bien entouré. Sean Penn, après 4 minutes, t'as compris que c'est pas une bonne idée d'être son pote.
Mais c'est marrant parce qu'il regarde ça un peu d'un air...
Comme s'il sait que ça va arriver, quoi.
Et puis que finalement, et à un moment, je crois, il voit Sean Penn péter un câble. Et puis il le regarde, il dit, mais vas-y, va provoquer le gars. Parce qu'il y a un côté, le personnage se rend compte qu'il est dans une espèce de mécanique, il va vers son destin. Et puis que c'est comme si, en fait, il s'illusionne de cette retraite. Est-ce qu'il y croit on ne sait pas. Mais il y a ce côté un peu, d'ailleurs la voix off le renforce. Hein, il regarde ça avec beaucoup de distance, avec une certaine ironie. Ce qui fait que même en sachant qu'il est mal entouré et qu'il devrait tout de suite couper les ponts avec ce type, l'accepte quand même. Donc c'est ça aussi qui rend le film vraiment typiquement, tu parlais de cette tragédie très shakespearienne.
Oui,
aussi.
Et puis il y a ce côté une dette d'honneur, quoi.
Oui.
C'est un film sur ça.
Sur la parole.
On donne sa parole, quoi qu'il advienne, on la tiendra. Et on va finir avec ça. Moi, il y a un truc aussi qui est très étonnant avec ce film. C'est que je ne suis pas fan de Joe Cocker. Je ne suis pas fan de Joe Cocker. Mais dans ce film-là, il y a un morceau de Joe Cocker qui arrive à la fin qui fait pleurer n'importe
fois.
Qui. Ouais, mais alors à la fin, je veux dire, il arrive et je ne pense pas qu'on aurait pu trouver mieux que ce morceau-là, que je trouve déjà You Are So Beautiful to Me, qui est déjà mieux que tout ce qu'il a fait, je trouve. Mm-hmm. Et là, qui colle absolument parfaitement à ce plan final où on voit un poster, hein, c'est ça.
Qui s'anime.
Qui s'anime. Non, c'est voilà, ouais. Qu'est-ce que c'est bien, quoi. Là, j'ai juste envie de dire, bon, on en a assez parlé, et puis on va aller le revoir. En tout cas, si vous n'avez jamais vu Carlito's Way, et que vous adorez, même si vous adorez Scarface, je pense pas que ce soit un mal de vous risquer à Carlito's Way. Vous risquez même d'y trouver un film meilleur. Enfin, moi, j'ai pas de mal à le dire. Je trouve Carlito's Way meilleur que Scarface. Et puis bon, même Brian De Palma a dit que c'est son meilleur film, alors écoutez, si le maître, enfin le propre auteur, si le taulier dit que c'est son meilleur film, voilà quoi.
Faites-lui confiance.
Faites-lui confiance. C'est un film qui est ressorti en 4K dernièrement dans une copie bien, qui est accompagné du Blu-ray d'époque. Alors c'est un peu dommage parce que ça, c'est un peu le problème des éditeurs actuellement qui se foutent un peu de nous. Hein. Moi, je pense que si on fait un 4K, on pourrait se permettre de refaire un Blu-ray d'après le Master 4K et pas nous mettre avec un vieux Blu-ray qui date de 2007 avec un master qui est vraiment pas terrible. Donc, voilà.
C'est pour le 4K, ça.
Voilà. Non, mais c'est tout ça pour dire que la 4K, moi, je ne suis pas convaincu. des bienfaits ni de l'intérêt absolu de ce support-là, mais pour un film comme Carlito's Way, déjà parce que le film a une photo absolument sublime et en plus parce que c'est un master qui a été fait vraiment récemment et bien, eh ben, je pense que vous pouvez largement acheter cette version-là si vous ne l'avez pas déjà. Et on va se dire à bientôt.
À bientôt.
On va encore persévérer un petit peu. Ah là 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 là. Tito Puente, t'avais vu les Gypsy Kings, non, les Mambo Kings avec Armand Asante.
Et puis,
on fera un épisode là-dessus. Ouais, c'était quelque chose. Allez, à bientôt.